Parlons patrimoine avec les journalistes en herbe, un projet de journalisme et de patrimoine réalisé sur le territoire de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain.
Dans le cadre de la convention territoriale Arrosons la Plaine, portée par la communauté de communes de la Plaine de l'Ain.
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles
et la région Auvergne-Rhône-Alpes,
l'éducation nationale,
le département de l'Ain
et la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Bonne écoute!
Elle habitait une maison bien délabrée, entretenait et Saint-Rambert en bugeait. Elle vivait comme on vivait dans le passé.
Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Arrosons la Plaine, réalisé par le classe du Centre socio-culturel de l'Albarine, Alpha 3A avec Radio B. Je suis Chana et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Bouchon. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le patrimoine naturel de notre département et plus précisément celui de la Plaine de l'Ain. Nous sommes au collège de l'Albarine à Saint-Rambert-en-Bugey et nous avons décidé de vous parler du patrimoine naturel avec la rivière de l'Albarine. Elle a façonné les paysages et elle rend notre territoire unique. Découvrons celle-là dès maintenant avec notre invité. C'est parti pour l'interview. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oh, je peux me présenter, oui. Donc, je suis Gilbert Bouchon. Je suis né à Saint-Rambert et j'ai été maire de Saint-Rambert depuis 2001 jusqu'au mois de décembre l'année dernière. Voilà.
Est-ce que vous savez comment se sont passées les inondations dans les années 90 ?
Alors oui, je sais à peu près comment ça s'est passé. Il y a eu deux épisodes d'inondation. Il y a eu le 14 février 1990 et puis décembre 1991 où pratiquement on a eu les deux fois les crues centennales. Alors la première fois, il y avait eu beaucoup de neige sur le plateau d'Hauteville et il y a eu un fort redout. Et donc du coup, il y a un mètre de neige pratiquement qui ont fondu dans la nuit, plus la pluie, plus aussi la SNCF avait nettoyé les talus de son réseau. Le bois était resté, c'est tout parti avec les eaux. Ça obstruait les vannes de la digue qui était en bas là et qui a provoqué des inondations. Donc ça c'était la première fois. La deuxième fois, il y a eu énormément de pluie qui avait provoqué une inondation qui était pratiquement du même ordre, quoi. Effectivement, c'est assez impressionnant de voir la rivière qui monte, qui se met à déborder. J'habite juste à la sortie de Saint-Rambert et on voit tous les jardins en face qui sont inondés. Les rues vers le Calypso, là, c'est tout inondé. Vers le moulin à papier, là où il y avait le restaurant, eh bien, il y avait beaucoup d'eau, les voitures ne pouvaient plus passer. Enfin bon, c'était les routes qui ont été soulevées, les voitures emportées. Et voilà, il a fallu évacuer les gens, les résidents de Cornillon, la maison de retraite. Sur l'avenue de l'Europe, les pompiers se promenaient en canot pneumatique pour remonter, quoi.
À cette époque, quel était votre métier ?
Alors, à cette époque, 90-91, j'ai tout fait ma carrière dans les travaux publics. J'étais dans une grosse entreprise nationale, d'où mes chantiers à l'étranger. Ben là, j'étais pas trop loin, j'étais revenu en France. Et j'avais notamment un gros chantier sur Mâcon.
Est-ce que vous saviez à quelle hauteur l'eau était montée ?
Alors, en hauteur, en mètres, je ne sais pas. Je peux vous dire en débit. Vous voyez, l'été, quand période la plus basse, on arrive à 500 litres à la seconde. Là, on arrivait à 237 mètres cubes. Et donc, les calculs des hydrauliciens donnaient un débit maximal d'une crue centennale, c'est-à-dire qui revient tous les 100 ans. Ce serait 242, donc on y était presque court. Donc tout ça, on constate des phénomènes. Et donc, du coup, les règles de sécurité, les règles de construction évoluent. Et donc, il y a des obligations maintenant de prévoir, notamment pour les neiges ou les eaux. Il y a eu un syndicat de rivière qui a été créé pour rassembler toutes les communes concernées par la rivière, par l'Albarine, pour faire des études hydrauliques, pour voir quelles mesures on peut prendre pour éviter des inondations et éviter qu'il y ait des dégâts, quoi. Les pluies, on ne les arrêtera pas, mais par contre, on peut faire en sorte qu'on ne construise pas à certains endroits. Et donc, du coup, il y a une forte restriction des terrains constructibles. Alors, c'est souvent en amont, pour préserver l'aval, quoi. Mais donc ça, c'est quand même... Et ça, c'est tout été fait en coordination avec toutes les communes à l'intérieur du syndicat de rivière. Voilà, donc ça, c'est ce qui découle de ces inondations, c'est des mesures de préservation.
Comment a-t-elle été évacuée, l'eau?
Ah ben, elle est partie toute seule, hein. Là, on ne peut rien faire d'autre, hein. C'est d'attendre qu'elle s'en aille, hein. Hormis peut-être dans les caves, effectivement, les caves qui sont inondées, ben, on met des pompes pour pomper l'eau, quoi. Mais autrement, l'eau de la rivière elle-même, on ne peut que constater et puis attendre qu'elle descende, quoi.
Comment les habitants se déplaçaient avec les inondations?
Eh bien, ils se déplaçaient ou ils se déplaçaient pas trop. Ben, on ne pouvait plus aller en Berrieux, alors il fallait passer par la montagne. Ils se déplaçaient à pied, quoi, puis en prenant toutes les précautions, hein. Les gens n'éprouvaient pas le besoin d'aller bien loin, c'est pas le souci, quoi, du moment, quoi. Ça durait quand même quelques jours. Bah, l'eau était descendue assez vite, hein. Donc le phénomène vraiment d'immobilisation était assez court. Hein.
Y a-t-il eu des mouvements de solidarité entre habitants en dehors de Saint-Rambert?
Ces inondations ont beaucoup affecté plusieurs communes. Alors entre communes, je me souviens plus très bien, mais entre habitants, oui, il y en a eu beaucoup, hein. Bien sûr, bah, tout le monde s'est mobilisé parce que il y a plus de courant pendant plusieurs jours, plus d'alimentation, plus de voilà, donc on écopait, il y a plus d'eau, bien sûr, dans les toilettes, donc on prenait les seaux dans la rivière directement. Enfin bon, il y a plus rien qui existait, il y a plus de courant, plus d'eau potable, plus d'eau, rien ne fonctionnait, quoi. Donc c'est là où bah, ceux qui avaient, bah, ils en donnaient un petit peu à tout le monde, quoi.
Est-ce que les écoles, les collèges ont été fermées?
Oh ben là, toutes les écoles étaient fermées, hein. Il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien. Chacun avait pour consigne de rester à la maison, hein. Donc là, c'était tout le monde était chez soi et consigne de ne pas bouger, quoi, tant que l'eau n'était pas repartie, quoi.
Pendant combien de temps à peu près?
Oui, des 14, 15 et 16, donc ça a duré 3 jours où l'eau était présente dans les rues, quoi. Alors, je pense qu'après, bah, ça descend vite. C'est un régime torrentiel, l'Albarine. Là, vu la configuration géographique, géologique, l'eau arrive de suite. Donc se retrouve regroupée en fond de vallée, très rapidement. D'où cette élévation soudaine, quoi. Mais ça redescend aussi vite que c'est monté, quoi. Mais oui, je pense 3 jours, ça a dû... L'eau a dû... Alors, il faut assécher, hein. Il faut assécher les choses. Il y a l'humidité de partout, quoi. Hein. On trouve des poissons dans les caves. Enfin, voilà, quoi, mais... Mais pour faire partir tout ça, il faut un certain temps quand même, quoi.
Y a-t-il eu des blessés ou bien des morts?
Ben, en mort, il y a eu le maire d'Ambérieux qui a laissé sa vie le long de la voie ferrée en inspectant un peu son territoire. Mais après, j'ai pas connaissance de blessés particuliers. Oui.
À quel endroit ont eu lieu les inondations à Saint-Rambert dans la vallée?
Ça a commencé au moulin papier vers le stade, là. Où toute la rue, la route là, qui mène au moulin papier, là, quand ça fait un point bas, c'était inondé. Et je me souviens que du coup, les gens, c'était la DDE à l'époque, ils chassaient l'eau avec le chasse-neige. Puis autrement, ben, vous voyez, ça constinait de partout, quoi. Ça constinait jusqu'au bout de l'avenue de l'Europe, là. C'était impossible. On arrivait à passer par le chemin qui arrive de Périne, mais c'était un peu périlleux, quoi. Donc c'est toute la commune qui était sous l'eau, hein.
Et pour finir, est-ce que vous connaissez des histoires insolites liées aux inondations?
Des histoires insolites? On voit sur certaines photos où il y a les pompiers, ben, pour intervenir, ils sont remontés en canot pneumatique là, sur l'avenue de l'Europe, quoi. Parce que les camions, les pompiers, la caserne était là et ils ne pouvaient plus accéder à leur caserne. Ils étaient bloqués chez eux. C'est quand même con pour les pompiers, quoi. Voilà. Bon, ça, oui, c'était un peu l'ironie du sort, quand même. Hein.
C'est quoi ce document que vous nous avez ramené?
Alors, justement, ça a été un document qui a été réalisé par les services de l'État. Les services de l'État pour, justement, bien alerter les populations et les communes et pour bien mémoriser les choses, les risques. Et donc, ça a été fait par les services de l'État, envoyé à la préfecture qui nous avait ça. Donc, c'est un document que j'avais affiché en mairie, là, et donc je pense que c'est assez évocateur. Voilà, les photos montrent bien le risque qu'il y a, quoi.
Merci beaucoup.
Merci, c'est moi. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode consacré au patrimoine naturel de la plaine de l'Ain. Il a été réalisé par Luna, Nassim, Hugo, Dylan et moi-même avec Radio B, les animatrices et les bénévoles du Centre socioculturel de l'Albarine et la professeure documentaliste. Nous remercions Gilbert Bouchon pour sa participation et ses réponses et la communauté de communes de la plaine de l'Ain pour cette opportunité. Préserver et valoriser notre environnement est une mission qui nous concerne tous.
Radio B,
Radio B,
Radio B,
les bonnes ondes.
Retrouvez-nous dans le prochain épisode de Arrosons la plaine. Merci à vous pour votre écoute. À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B. La